Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, on va conclure l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Jean-Jacques qui songe à se procurer une berline compacte ou intermédiaire d'occasion de 2 ou 3 ans. Il recherche le confort, le silence de roulement, la fiabilité, la facilité d'accès et de sortie parce qu'il précise qu'il a 71 ans et qu'il mesure 6 pieds, ainsi que le plaisir de conduire. Il désire pouvoir tirer une remorque légère pour se rendre à l'éco-centre ou à la quincaillerie à l'occasion. Il avait en tête des modèles comme la Toyota Camry et la Volkswagen Jetta.
La Camry, c'est un incontournable. C'est sûr que c'est une excellente voiture parce que si on est intéressé à aller vers une intermédiaire versus une compacte, je vais recommander l'intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne coûtera pas réellement plus cher qu'une compacte. Ce sont des voitures qui sont moins en demande que les compactes et conséquemment, leur valeur sur le marché d'occasion est à peu près la même que celle d'une compacte équivalente. Par exemple, vous voulez avoir une Accord ou une Civic, vous allez voir que le prix de l'Accord n'est pas beaucoup plus élevé. Et bien, moi, je choisirais une Accord avant ça. Et l'Accord, c'est un autre bon choix dans, dans la catégorie des berlines intermédiaires. La Camry, évidemment, aussi. Vous pouvez peut-être même jeter un œil vis-à-vis de la Subaru Legacy qui, elle, conserve quand même une certaine valeur. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, mais je privilégierais ça à peut-être une Volkswagen Jetta.
Et on peut installer une attache remorque pour tirer une petite remorque là, ouverte.
Une remorque de quelques centaines de kilos, ça va faire le travail. Ce n'est pas, c'est pas un gros problème. Alors, dirigez-vous vers ces modèles-là. Peut-être éviter des modèles... un petit peu plus fragile. Là. Les anciennes générations d'Hyundai Sonata, de Kia, je m'en allais dire Magentis, Optima, oui. Pardon.
Parce que le modèle change de nom à chaque génération.
C'est ça, hein? Fait que ça devient mêlant. Des Chevrolet Malibu, des Ford Fusion, c'est des voitures qui déprécient beaucoup, qui ne sont pas vilaines. Alors, vous pourriez avoir de bonnes aubaines là, mais c'est des autos que vous aurez beaucoup de misère à revendre plus tard, qui ne sont vraiment pas convoitées sur le marché d'occasion. Alors, privilégiez principalement Toyota Camry, Honda Accord, je pense. La Mazda 6 est aussi une excellente voiture. Par contre, vous mentionnez une voiture confortable avec un bon silence de roulement. Et ça, c'est pas l'avantage de la Mazda 6 qui, elle, se distingue.
C'est pas nécessairement la plus spacieuse non plus, là.
Non, mais c'est quand même plus spacieux qu'une compacte en moyenne.
Oui.
Et c'est une auto qui a une
dynamique de conduite
plus intéressante.
On a Jonathan qui nous dit avoir vu des informations contradictoires circuler concernant l'état mécanique et de la carrosserie d'un véhicule au moment du retour de la location.
Ouais.
Et se demande si le concessionnaire peut lui charger des réparations autant mécaniques que de carrosserie si le véhicule n'est pas dans un certain état.
Ben en fait, c'est ça. C'est que ça doit être dans un état jugé raisonnable. Donc, l'usure des pneus, par exemple, si le pare-brise est craqué, s'il y a des égratignures qui sont considérables sur les pare-chocs, si c'est extrêmement superflu, on va laisser passer. Mais souvent, c'est une zone grise parce que un concessionnaire, en fait, c'est pas le concessionnaire lui-même qui est responsable de charger des frais, mais plutôt le constructeur automobile. Et si vous êtes sur le point de changer de véhicule et vous avez l'intention de racheter un deuxième véhicule, on pourrait être plus compréhensif. Alors que si vous redonnez les clés tout simplement, ben on va peut-être avoir un œil plus sévère.
Donc il y a un élastique qu'on peut
utiliser. Il y a un élastique qui existe. On peut être compréhensif.
Okay.
On peut
okay.
être.
De,
on peut
il peut
ajuster.
Y avoir de la bonne volonté là, si on se force un
Exactement.
peu.
Exactement. Alors.
Puis on peut aussi opter pour une forme de garantie au moment du début de la location pour remettre les clés telles quelles, puis on s'occupe de rien après, là.
Mais en optant pour cette garantie-là, c'est une garantie qu'on va vous vendre généralement entre 1 000 et 2 000 $ pour un véhicule de grande série. Bien là, on réalise que finalement, si vous optez pour cette garantie-là, vous êtes aussi bien d'acheter le véhicule parce que le 2 000 $ supplémentaire que vous allez payer pour avoir droit à ça, bien finalement...
C'est la différence entre les paiements de location et les paiements
d'un
financement.
Fait que c'est ça. À un moment donné, il faut savoir où s'arrêter. Entretenez votre véhicule adéquatement, mécaniquement adéquatement. Gardez les preuves de votre entretien si vous ne les faites pas chez le concessionnaire. Et si vous avez des égratignures, si vous avez un pare-choc de brisé, si vous avez des pneus qui sont trop usés, ben vous devrez les remplacer avant de remettre les clés. C'est un véhicule de location, il ne vous appartient pas.
Mais vous êtes responsable de le conserver dans un état décent.
Dans un état raisonnable, exactement. Oui. Je veux dire, un éclat de roche ne doit pas être considéré comme quelque chose que vous devez réparer, puisqu'un éclat de roche, c'est de l'usure normale. Des freins peuvent être usés à un niveau normal.
Mais si le pare-choc est complètement craqué, ben là, ça passe
c'est
ça. Plus.
S'il manque un feu anti-brouillard, il y a un problème. Alors, il y a une limite autour de ça qu'il faut respecter. Alors, et si votre œil considère que la voiture est en bon état, mais qu'il manque des morceaux, ben peut-être que vous n'avez pas un œil
suffisamment aiguisé. Voilà. Oui, voilà. On a José qui a constaté une baisse de prix pour la Nissan Leaf 2022. Elle ne la considérait pas initialement. Doit-elle choisir une Nissan Leaf 2022 de base ou attendre on ne sait pas combien de temps et se procurer une Chevrolet Bolt 2022 de base également?
Oui, c'est une bonne question. Nissan a baissé drastiquement les prix de sa Leaf.
On n'a pas eu le choix de s'ajuster là, parce qu'on on finissait par être trop cher comparativement à la Bolt, justement.
En fait, on a ajusté non seulement les prix, mais on a ajusté la gamme. Les versions les plus luxueuses de la Leaf qui étaient disponibles en 2021, ne reviennent pas en 2022. Donc, les versions SL+, tout ça, ça n'existe plus. Mais il faut faire attention.
On peut deviner que c'est parce qu'on va faire place à un nouveau véhicule électrique plus haut de gamme, le Nissan Ariya. Donc, les versions plus haut de gamme de la Leaf perdent leur intérêt.
Oui, exactement. Puis la Leaf, de toute façon, est une voiture qui est de moins en moins populaire parce qu'elle était trop chère, parce que sa technologie est plus conservatrice aussi. Et si vous ciblez une Leaf de base, donc le modèle d'entrée de gamme qu'on vend maintenant sous la barre des 40 000 $ ce à quoi vous allez retirer 11 307 $ pour le crédit gouvernemental avant taxe, sachez que c'est une Leaf avec une petite batterie, celle de 40 kW qui vous donne à peu près 250 km d'autonomie.
Dans des bonnes conditions.
Dans des bonnes conditions. Alors que la version qui, pour moi, est plus intéressante, bien, c'est la deuxième du lot qui, elle, va vous donner une autonomie d'à peu près 375-400 km et qu'on vend à 42 000 $ donc environ 2 000 $ de plus que la Chevrolet Bolt EV. Et je privilégierais la Chevrolet Bolt de toute façon, même s'il y a un écart de prix entre les deux véhicules. Pourquoi je prendrais Chevrolet? Tout simplement parce qu'on a un système de thermorégulation qui est plus évolué, qui est plus efficace que chez Nissan. Donc, ça a comme impact que si vous roulez dans des températures très chaudes ou très froides, le système de thermorégulation de la batterie chez Chevrolet permettra de refroidir ou de réchauffer les batteries pour conséquemment avoir une autonomie qui est toujours plus efficace que celle de chez Nissan. Évidemment, si Nissan vous fait une aubaine du siècle, que la voiture est disponible maintenant, pourquoi pas? Et si vous avez suffisamment d'autonomie avec 250 et 175 l'hiver, à vous de choisir. Mais moi, je vous recommande fortement, si vous voulez demeurer chez Nissan, de passer à l'étape supérieure, d'aller vers la Leaf, qui est juste un peu plus chère avec la grosse batterie, sinon d'aller chez Chevrolet, là, absolument.
On a David qui nous dit posséder une Subaru Outback Touring 2.5 2019 qui a 45 000 km. Il aimerait avoir une Outback 3.6 R Limited 2017, donc 2 ans plus vieille, de 95 000 km. Le concessionnaire lui propose un échange de type change pour change. Parcourt annuellement 12 000 km. Il a 3 enfants âgés de moins de 4 ans. Le système EyeSight l'intéresse beaucoup et le chauffage pour la banquette arrière aussi.
Bon, le système EyeSight, d'abord, là, pour l'avoir expérimenté sur l'Outback il y a quelques semaines, c'est vraiment pas une technologie qui, pour moi, est au point. C'est irritant tellement, c'est tout le temps en fonction.
Et là, on parle d'un modèle de quelques années, donc là, c'était peut-être même encore moins peaufiné que ça pourrait l'être aujourd'hui.
Alors, moi, ça serait pas un critère d'achat, honnêtement, parce que c'est juste un irritant. Ça passe son temps à sonner. La voiture freine d'elle-même inutilement à quelques reprises. Alors ça pour moi, c'est vraiment pas un avantage. Là, vous échangez une voiture, évidemment, qui a près de 100 000 km contre une voiture qui a près de 50 000 km. Alors, vous êtes perdant au change. Vous perdez aussi en, en âge et donc en garantie. Par contre, vous avez une Outback qui est plus luxueuse, qui est plus confortable, qui a un moteur 3.6 qui est plus performant. Si c'est une voiture très fiable, alors vous pourrez la conserver longtemps sans problème, mais j'ai pas l'impression que c'est l'aubaine du siècle que vous réalisez en ce moment. Alors, peut-être essayer de négocier davantage parce que votre voiture d'occasion, elle vaut quand même son pesant d'or aussi. Moi, je vous recommanderais peut-être de penser à faire une vente d'accommodation, c'est-à-dire de vendre votre voiture personnellement via le concessionnaire, récupérer les taxes et acheter l'Outback que vous ciblez au prix qu'on en demande. Vous serez probablement gagnant à ce moment-là.
Troisième question, on a Stéphanie qui nous dit qu'elle a perdu sa voiture dans un accident et doit se trouver un nouveau véhicule. Elle pensait à un petit VUS. Elle a un budget qui oscille entre 17 et 18 000 $. Elle pourrait se permettre un Buick Encore 2017 ou un Mazda CX-3 2018. Elle trouve le Buick plus joli, mais elle est inquiète quant à la fiabilité et à la tendance à rouiller du modèle. Est-ce que l'un des deux se démarque le plus et lequel on lui recommande?
J'irais vers le Mazda CX-3, moins spacieux, certainement moins polyvalent. Effectivement, il est moins joli aussi. Le Buick Encore, c'est une de ses caractéristiques. C'est très sympathique comme design. Mais et c'est un véhicule plus confortable, il faut se le dire. Mais sur un très, très, très long terme, j'aurais beaucoup plus confiance à Mazda. Buick a un moteur 1.4 litres turbo qui a déjà montré des défaillances. Les turbocompresseurs sont fragiles sur ces véhicules-là à 80, 100, 110 000 km. Ça peut brisé. On parle d'un coût de remplacement de 1500 à 2000 $ pour le turbo. Alors, c'est quand même pas rien. Et c'est un véhicule qui, dynamiquement, particulièrement en hiver, dans la neige, dans la gadoue, est certainement pas au niveau de celui d'un Mazda 3, CX-3, pardon. Alors, j'irais chez Mazda personnellement, même si c'est pas un véhicule aussi spacieux et confortable.
Une dernière question en terminant. On a Sylvie qui a besoin de remorquer une petite chaloupe avec un moteur pour un total de 1200 livres. Elle hésite entre un Honda CR-V 2019 et un Mazda CX-5 2019. Lequel sera le plus fiable à long terme selon ta boule de cristal? Elle aimerait le garder environ 8 ans.
CX-5, c'est un produit qui me séduit. Moi, c'est vraiment une machine intéressante. Alors, j'irai probablement vers ce modèle-là parce que c'est des véhicules qui vieillissent extrêmement bien en ce moment. Alors, privilégier ce modèle-là, je pense que ça vaut la peine.
Excellent. Merci beaucoup, Antoine. Je te souhaite une excellente fin de semaine.
Également.